à Rencontre Spirituelle aujourd'hui. C'est une sorte d'émission qui peut nous permettre de prendre des résolutions du nouvel an, car il est question du bienheureux Alain de Solminiac. Les noms en hack, ça existe beaucoup en France, dans l'ouest de la France. Et c'est un réformateur, un évêque d'un grand courage qui est inspiré en particulier par Saint Charles Borromée, ce grand réformateur, ce grand saint, Saint Charles Borromée. Et notre bienheureux d'aujourd'hui, Alain de Solminiac, qui a été béatifié au 20e siècle seulement, est mort en 1659. C'était un évêque, vous allez voir, très courageux, à une époque de très grande décadence. C'est surprenant. Alors, il prend donc des résolutions de faire changer de vie à tout son clergé, à tout son monde. Et ça peut être une bonne émission pour réfléchir aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année civile. Évidemment que nous, à Rencontre Spirituelle, nous avons commencé notre année il y a déjà un mois, avec le premier dimanche de l'Avent. Je vous avais souhaité une heureuse année. Je vous en souhaite une nouvelle, si vous voulez, pour l'année civile. Alors, le bienheureux Alain de Solminiac, j'appelle Sol comme Sol, n'est-ce pas? Et M-I-N-I-H-A-C, Solminiac. Il est, dans son ouvrage, il est mentionné, dans son ouvrage, Le Grand Siècle des âmes, de Daniel Rops, là, qui est paru il y a déjà 40 ans. Ben, le fameux historien Daniel Rops en parle de cet Alain de Solminiac. Il lui décerne déjà prématurément le titre de bienheureux, et il ne sera bienheureux que plus tard. Oui, c'est assez récent. Le 27 juin 1661, donc un an et demi après la mort de ce grand évêque qui est le bienheureux Alain de Solminiac, seulement un an et demi, surgit un grand miracle. En effet, à la suite d'un accident, une petite fille du nom de Marie Ledoux, 5 ans, elle a le bas-ventre ouvert par un couteau et la vessie transpercée. C'est tragique, c'est vraiment terrible. Et 2 jours plus tard, les chirurgiens de l'époque n'ont aucun espoir de la guérir, de la sauver. Ils le disent d'ailleurs aux parents. Et le père de Marie Ledoux se rend alors au tombeau d'Alain de Solminiac, cet évêque, à Cahors, pour implorer le salut de la fillette. Il veut sauver sa fille. Et lorsqu'il revient, il la trouve guérie. Ça s'est fait instantanément. Alors, la nouvelle de cet extraordinaire miracle se répand. Et là, le professeur Durand de Cahors, lui, c'est une ville au sud-est de Périgueux, ça vous dit quelque chose, un peu vers le sud de la France, sud-ouest, là. Cahors, c'est pas une très grande ville, une centaine de milliers d'habitants, peut-être, mais c'est joli, hein. Alors donc, le professeur Durand de Cahors et Monseigneur de Sevin, je donne les noms parce que c'est scientifique, évêque de cette ville à l'époque, eh bien, ils font faire les constatations nécessaires. Et ce ne sera pourtant que le 13 juillet 1979 qu'après les délibérations des experts que Jean-Paul II va reconnaître ce miracle et que, en somme, 322 ans après le décès de Monseigneur de Solminiac, il béatifie officiellement cet homme de très grand courage le 4 octobre 1981. Il y a donc seulement 17 ans que nous avons ce nouveau bienheureux. Ne soyez pas surpris si vous ne le connaissez pas, il est peu connu, mais c'est un homme fantastique, vous allez voir. Il faut noter quand même que l'Assemblée du clergé français, à 4 reprises au XVIIe et XVIIIe siècle, étant donné les miracles qu'il opérait, a réclamé sa glorification. Et puis le pape Pie VI avait introduit sa cause en 1783. Bon, passons. Le modèle du bienheureux Alain de Solminiac, je vous ai dit, c'est Saint Charles Borromée, hein? Un évêque réformateur qui est mort en 1584, en pleine période après le Concile de Trente, en pleine période de la propagation de la réforme protestante et des schismes dans l'Église, 16e siècle. Eh bien, Saint Charles Borromée, lui, a attendu bien moins longtemps pour être canonisé, puisqu'il a été canonisé 26 ans seulement après sa mort, en 1610 qu'il a été canonisé. Mais déjà, un autre grand évêque réformateur, il y en a plusieurs, il y avait beaucoup d'évêques réformateurs, beaucoup plus qu'on pense, qui est en partie contemporain de notre évêque français, qui s'appelle Grégoire Barbirigo, qui est mort évêque de Padoue, oui, mort Saint-Antoine de Padoue, ce portugais, en 1697, et bien a été béatifié qu'en 1761, puis canonisé en 1960. Alors, Borromée, Barbirigo, Solminiac, je pourrais vous donner bien d'autres noms, trois évêques qui se ressemblent, même au physique, hein, ils ont des visages allongés, un front découvert, un nez plutôt éminent, comme on dit, puis menton pointu, un regard sévère d'hommes qui ne savent pas tellement badiner. Hein. On badine pas avec la charge d'un évêque qui est pris dans un diocèse difficile. Il y a une grande parenté morale entre eux. Hein. Saint-Charles Borromée en est le prototype de ce grand archevêque qu'il a été, archevêque de Milan. Saint-Charles Borromée ne veut plus que se consacrer à son diocèse, lui. Hein. Il a réformé son clergé. Il s'occupe des pestiférés à un moment donné, vous vous souvenez. Puis il tient tête aux oppositions des chanoines et des hauts personnages laïcs de Milan. Puis il est sur la brèche jusqu'à son dernier souffle. Pardon. Monseigneur Barbirigo, son admirateur italien de Padoue, agit de la même manière comme évêque de Bergame, puis finalement de Padoue. Monseigneur Barbirigo, préoccupé d'humanisme et de patristique, c'est un savant. Et il fonde une imprimerie orientale, avec des caractères grecs. Et il tente de réunir à Rome l'Église grecque qui s'est séparée au XIe siècle. Puis il tente aussi de convertir même des Juifs et des Arabes, parce qu'il fait, il imprime des choses avec des caractères hébraïques et des caractères arabes. Monseigneur, lui, Alain de Solminiac, se situe entre ces deux saints. Il est né en 1593, donc 9 ans après la mort de Saint-Charles Borromée, et 32 ans avant la naissance de Monseigneur Barbirigo. Lui aussi sera le disciple, le fidèle imitateur de l'archevêque de Milan, Monseigneur Saint-Charles Borromée. Il va bénéficier de l'amitié de Saint-Vincent de Paul, Alain de Solminiac, dont il reçoit les conseils. Si sage, hein? Vincent de Paul, sage, très sage. Des conseils aussi tempérés, de charité. Alors, Alain de Solminiac est donc né le 25 novembre 1593, dans un château, le château de Belley, dans le diocèse de Périgueux. Ses parents appartiennent à la petite noblesse de campagne. Alain grandit donc dans une maison très chrétienne, où on n'entend aucun jurement. On bannit le libertinage. Il n'est pas question de fraterniser avec les théories que l'on considère comme hérétiques, celles des protestants, et qui pourtant parcourent la contrée de Périgueux. Comme ses deux frères, le jeune homme est élevé pour être au service du roi, puis à 20 ans, il se prépare à entrer dans l'ordre de Malte. Je sais qu'il y a des gens de l'ordre de Malte qui m'écoutent parfois, parce qu'on a l'ordre de Malte à Montréal. Mais voici qu'un de ses oncles, dont Arnaud de Solminiac, abbé du monastère de Chancelade, aux portes de Périgueux, depuis 1582, offre en 1624 ce bénéfice à son neveu. Ça se passait comme ça, les charges qui rapportaient un peu d'argent. C'est très décadent, hein? Alors, Alain de Solminiac l'accepte, il est tout jeune, mais il est réformateur, tout jeune déjà, et il décide d'être abbé régulier et de réformer la maison. Il veut pas être un abbé étranger à son monastère, il veut être l'abbé, et logé là, et réformé. Dès lors, Alain, qui le 2 avril 1614 a été tonsuré à Cahors, c'est-à-dire qu'il est devenu un clerc, il revêt finalement l'habit blanc des chanoines de Saint-Augustin, et, à bien y penser, l'abbé Arnaud de Solminiac, qui devient abbé, Arnaud de Solminiac, a offert à son neveu Alain un cadeau empoisonné, quand on y pense, en lui demandant de lui succéder dans cette abbaye de Chancelade. Pourquoi? Parce que c'est une maison de chanoines réguliers qui a été fondée au 12e siècle, qui a connu une ère de prospérité, mais la décadence a commencé au 14e siècle, Lorsque les Anglais ont transformé le couvent en forteresse pour se défendre, et au XVIe siècle, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en juillet 1575, les Huguenots, comme on appelle les protestants en France, prennent et brûlent une bonne partie de l'abbaye. Ils vont même jusqu'à tuer plusieurs chanoines de la communauté qui est réduite à 7 membres, finalement. Et ne laisse de l'église que les bases de la nef, le transept et le clocher qui le surmontent. Ils n'y allaient pas de main morte, les protestants. Alors, depuis, les protestants vont jusqu'à vendre, à peu près pour rien, aux paysans des alentours, les titres de propriété. Et lorsqu'ils reçoivent finalement l'abbaye de Chancelade en bénéfice, en 1581, l'oncle d'Alain trouve donc des ruines, dont il ne relève que le strict minimum pour y abriter les survivants, pour essayer de reconstruire un peu le monastère. Puis ces survivants, ces quelques chanoines réguliers, là, qui suivent une règle, ne peuvent reprendre la vie régulière, quoi. Aussi, il n'y a plus d'office divin, puis chacun vit en somme comme il l'entend, ça marche pas. À son arrivée, le nouvel abbé, notre bienheureux Alain, ne possède que 3 religieux, dont un jeune prophète, qui seul manifeste le désir d'une vie canoniale authentique. Alors, le bienheureux Alain de Solmignac, cependant, est tout jeune, tente de rétablir la régularité. Alors, on reprend l'office au cœur, comme les moines à Saint-Benoît-du-Lac ou à Oka, là. La messe conventuelle, une belle messe, diacre sous diacre, quoi, et la vie communautaire. Lui-même, par son exemple, essaie d'entraîner ses confrères, mais une fois ordonné prêtre, il veut obtenir ses grades en Sorbonne, il veut s'instruire. Alors il part donc à Paris, puis il y reste 4 ans. Alors l'abbaye de Chancelade requiert quand même sa présence. Il a fait en 1620, sous la direction d'un prêtre important, un jésuite, les grands exercices de Saint-Ignace. Et il a été très marqué par Saint-Ignace de Loyola. Et d'ailleurs par la méditation du début, dite du fondement. Il a également assisté à plusieurs prédications de Saint François de Sales, ça l'a beaucoup marqué. Et tout en travaillant avec acharnement, le bienheureux Alain de Solmignac s'est mis à vivre en ascète. Et pour restaurer la bibliothèque de Chancelade, parce qu'il considère qu'une bibliothèque c'est très important dans un monastère, qui a été détruite en 1575 par les protestants, brûlée et tout, il a acquis beaucoup de livres pour la repeupler. Ses 4 années à Paris ont ainsi peu à peu mûri sa belle vocation de réformateur, de quelqu'un qui prend des décisions. Plus que jamais décidé à restaurer matériellement et spirituellement son abbaye, bien, il y revient. En septembre 1622, il n'a que 28 ans. Incroyable, une tâche énorme l'attend. Il lui faut d'abord rebâtir des locaux, mais il manque de ressources, alors il entreprend la restauration en déclarant « Je bâtis pour Dieu ». Et Dieu a une bonne bourse. Il y a de l'argent, quoi. Alors, plusieurs fermiers lui restituent les titres de propriété de la maison, ce qui lui apporte quelques subsides. Puis, il doit surtout rétablir dans le couvent une vraie vie régulière. Il est nécessaire de republier Chancelade, là. Alors, Alain commence par faire quitter les lieux aux chanoines qui sont vraiment pas des religieux, qui n'acceptent pas la réforme. Et puis, avec 3 prophètes seulement, auxquels s'adjoignent 3 novices, la réforme commence, écoutez ça, bientôt, là, grâce aux jésuites, oui, les jésuites l'aident, les jésuites d'Aquitaine, des jeunes affluent dans la maison, les jésuites les envoient là, et ça refleurit, et puis, de 1630 à 1636, en 6 ans, il y a 46 professions religieuses. Alors, c'est fantastique. À minuit, il y a le chant des matines, 1 heure de méditation avant prime, la messe conventuelle après tierce, les repas pris en silence, suivi d'une récréation en commun, les jeûnes du carême et de l'avent, les vendredis et des vigiles, un jour de retraite mensuelle aussi, puis une retraite annuelle de 8 jours. Et quant à lui, au moins chaque vendredi, Alain de Solmignac s'acquitte d'une conférence spirituelle. Ses frères en profitent et aiment beaucoup ses conférences. Alors, comme vous voyez, il est notre bienheureux Alain de Solmignac, tout jeune, réussit à faire la réforme de son monastère. En peu de temps, à une époque où ça semblait absolument impossible, sa réputation va se répandre, il va devenir très illustre. Faut dire que de plus, ces chanoines doivent se mettre à la disposition des âmes, car les chanoines réguliers, qui sont comme des moines, sont des moines actifs. Ils prêchent, ils catéchisent, ils confessent, ils visitent les malades. Et Alain de Selminiac, l'abbé, les envoie accomplir leur ministère. Même en dehors de Chancelade, ils vont un petit peu plus au loin. Il est très humble, cet abbé Alain de Selminiac. Il se plie, comme ses moines, à des tâches les plus ordinaires du monastère. Ces moines, ces chanoines, comme on les appelle, admirent sa ponctualité. Incroyable, c'est les mots de l'époque. Ponctualité incroyable. Il est là où il doit être, toujours à l'heure. Fidèle. Il est d'une régularité sans défaillance. C'est un jeune homme décidé, même s'il est déjà abbé tout jeune. Chaque jour, à l'heure de l'oraison du matin, il en ajoute deux autres heures, ou deux autres périodes. Et sans cesse, il médite sur le Christ. Il aime Jésus-Christ. Et il médite sur sa passion, sur l'amour qui jaillit de cette passion du Christ. En 1626, il fait même le vœu d'accomplir toujours et en tout ce qui lui paraît le plus parfait. C'est le vœu le plus difficile. C'est le vœu des saints. Il a maintenant 33 ans. À ses chanoines, il enseigne en fidèle disciple de saint Thomas d'Aquin le dogme, la morale et la liturgie. Mais moins pour en faire des érudits que pour leur communiquer une vie de piété, puis les rendre aptes à instruire les âmes. Lorsqu'en 1628, la famine sévit là, dans le Périgord, la région de Périgueux, quoi, il fait chaque jour distribuer des aliments à 800 pauvres. 800 pauvres. Il organise les secours aux malheureux. Il appelle à la charité les riches de Périgueux et dit aux riches ce que peut-être on devrait dire aujourd'hui. Dieu ne vous écoutera pas si vous n'écoutez pas les pauvres. Et heureusement, notre population a beaucoup écouté les pauvres durant les semaines qui ont précédé Noël. Hein, c'était merveilleux. Lors de la peste de 1631, il visite les paroisses atteintes par l'épidémie. Il réconforte, il confesse, il administre les malades. Il est atteint lui-même à un moment donné, mais il n'en fait rien pareil, puis continue son ministère. Vous connaissez probablement le fameux père Joseph qu'on appelait l'éminence grise. Je vous en parlerai un jour. Il le juge un personnage, c'est le texte même du père Joseph que je vous lis, un personnage d'un singulier mérite tant par sa rare piété que par sa prudence et sa doctrine, accompagné d'un grand zèle en l'honneur de Dieu et de porter les âmes à la perfection de son amour. À la perfection de son amour. C'est le père Joseph qui parle à cette époque. L'éminence grise. Il lui confie de surcroît, parce qu'il a grande autorité, le père Joseph, et il lui confie la visite des religieuses qu'on appelle les sœurs calvériennes à Paris. C'était très populaire à l'époque. Et dans l'ouest de la France aussi. Et pareillement, le cardinal de La Rochefoucauld, très le grand aumônier de la cour de France et chargé par le pape en 1628 de la réforme des ordres religieux décadents, lui demande d'enquêter. Il demande ça à Alain de Selminiac, d'enquêter dans 5 diocèses sur l'état des maisons des chanoines réguliers. Et le spectacle est plutôt épouvantable, ça n'a rien d'affriolant. Hein. Beaucoup sont en ruine et très peu peuplés. Très peu de vocation. Leurs occupants n'y portent pas l'habit religieux. Et chacun d'eux vit comme il peut. À sa guise. Même que dans le cas d'un monastère, le visiteur, Alain de Selminiac, est insulté, maltraité par les moines, les chanoines. Pour remédier à sa décadence, il apparaît alors au bienheureux Alain de Selminiac que Chancelade, son abbaye réformée, doit se répandre, doit essaimer. Alors saint Vincent de Paul, par exemple, lui suggère, c'est son ami, lui suggère d'envoyer des moines de Chancelade, pour réformer l'abbaye de Foix, dont l'abbé, un très bon jeune homme, dit le saint, n'arrive pas à assujettir à la moindre règle ces 12 léopards, comme dit saint Vincent de Paul. Il les appelle des léopards, des mauvais moines. Voici de même M. Ollier, fondateur des Sulpiciens. abbé commendataire de Pébrac. Abbé commendataire, ça veut dire qu'il a les bénéfices d'un monastère, mais il n'est pas vraiment abbé, ou il loge pas là. C'est commendataire qu'on appelle ça, hein, vous connaissez ça. Abbé commendataire de Pébrac, donc Monsieur Ollier, qui ne parvient pas lui à dompter ses religieux récalcitrants et qui conjure à jointe main, dit-il dans une lettre, le réformateur, Alain de Sémignac, de sauver ses 50 brebis perdues. C'est ce que dit Monsieur Ollier. Les brebis perdues sont néanmoins prêtes plus ou moins à accepter une réforme, mais une réforme douce, hein, ils veulent pas aller trop loin. En avril 1636, c'est Richelieu lui-même, sans doute sur la recommandation du père Joseph l'Éminence Grise, qui, au nom du roi, qui, ouvrez les guillemets, désirait remplir les évêchés vacants de son royaume de personnes dont la vie fut exemplaire, alors il nomme Alain de Solmignac, évêque de Bazas. Le 20 avril, il répond au cardinal, notre bienheureux, que le sentiment que lui donne la connaissance de lui-même ne lui permet pas d'accepter une telle charge. Alors il prie donc le cardinal Richelieu de faire agréer ses excuses au roi, puis il ajoute de plus dans sa lettre, « Dieu m'a tellement attaché au service de ma communauté qu'il semble me tenir par là. » Mais pour Richelieu, pas question de dérobade ni d'excuses. Richelieu, c'est un homme décidé. Il ajoute cependant, très gentiment, « La dignité à laquelle le roi veut vous élever, monseigneur, ne vous empêchera pas de vaquer à la réformation de votre ordre, selon le dessein que vous en avez fait. » Alors, ben, il monte à Paris, voir le cardinal ministre. Alors, pour Solmignac, apprend alors qu'il est nommé évêque de Cahors, ce qui l'éloigne moins de son abbaye. C'est à peu près, vous savez, à 100 kilomètres de Périgueux. Puis l'abbaye est tout près de Périgueux. Puis, admis auprès du roi, il se jette à ses pieds, puis il lui demande de nommer à ce poste un évêque plus digne que lui. Alors, Louis XIII est absolument estomaqué. Il est surpris. Il s'écrie, « Béni soit Dieu de ce qu'il y a encore dans mon royaume, un abbé qui refuse des évêchés. » Mais le bienheureux Alain de Solmignac doit acquiescer à l'ordre formel du roi. Il est obligé d'obéir. Alors, le nouvel évêque de Cahors n'est maintenu à Chancelade que comme abbé commendataire, puisqu'il ne peut y résider. Il est tenu à être dans son diocèse de Cahors, je vous rappelle, à 100 kilomètres de son monastère au sud-est, là. Même si Cahors n'a pas d'évêque depuis le 25 février 1636, donc depuis quelques mois, le nouveau prélat ne court pas là. Il s'y précipite pas. Il fait d'abord une retraite, un homme de foi. Hein. Puis il passe plusieurs mois à étudier les actes des conciles concernant les devoirs des évêques, ainsi que les œuvres de Saint Charles Borromée qu'il estime tellement. Puis il est ordonné évêque. On disait qu'il était sacré dans le temps, évêque. Hein. Le 27 septembre 1627, la veille, il a jeûné, il a fait une confession générale, il a passé la nuit en prière. Au repas qui suit la cérémonie, imaginez, il jeûne encore, il se contente de quelques cuillerées de potage. Il refuse de revêtir une soutane violette, il n'aime pas ça. Il a conservé son habit blanc de religieux. Les chanoines réguliers sont habillés de blanc. Hein. Le 4 octobre, à Saint-Maur, il prête au roi serment de fidélité. Et le roi lui dit, vous savez, c'est les rois qui menaient le bal dans l'église dans ce temps-là pour la nomination des évêques et tout ça. C'est un peu surprenant, hein. Vous aurez bien des affaires. Et lui, il répond au roi, « Sire, tous les bons évêques ont souffert beaucoup de persécutions. Je crois aussi que j'en aurai. » Alors, il part donc pour Cahors le 31 janvier, accompagné de 8 de ses chanoines. Il les amène avec lui. Ce sont des réformés catholiques, dont l'un d'eux sera son vicaire général, un autre son secrétaire, le troisième son préfet spirituel, puis les 5 autres deviendront des missionnaires dans son diocèse. Alors, tout de suite en arrivant, bien, il demande aux chanoines du chapitre, les chanoines rattachés à la cathédrale, une conduite irréprochable pour eux autres. C'est des chanoines ordinaires, ça. Et tout en étant paternel vis-à-vis des prêtres, ben il doit réprimer son irritation. Il a le goût de se fâcher parce qu'il voit un certain nombre de ces chanoines ordinaires vêtus d'habits civils. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, hein? Alors, le diocèse de Cahors ne comprend pas moins de 700 à 800 paroisses. C'est un grand diocèse. Il aura du travail et je vous montrerai que son travail, il va l'accomplir sans hésiter. Alors, je vous ai dit que le diocèse de Cahors comprend pas moins de 700 à 800 paroisses. Et le premier biographe du Bienheureux, qui est le père Chastenay, nous le présente ainsi. Écoutez ça, c'est épouvantable. On n'a pas idée de la décadence de l'Église à ce moment-là. Ne vous scandalisez pas, c'est un texte d'un homme qui écrit la vie d'un saint. Le malheur des temps et des guerres civiles l'avait réduit à un état si déplorable, le diocèse, qu'il avait besoin d'être remis en toutes ses parties. Les prêtres étaient pour la plupart si ignorants qu'ils ne comprenaient pas le latin. Il n'y avait pas de différence entre eux et les laïcs pour les habits et la conversation extérieure. Ils marchaient en habits courts, de toutes sortes de couleurs. Ils portaient des cheveux longs comme les laïcs. Leur divertissement était la chasse et le jeu. Leur demeure ordinaire, le cabaret, ou le club de nuit, si vous voulez. Il s'en trouvait même qui passait le temps dans des clubs de nuit, à danser et à jouer avec des femmes, et plusieurs menaient une vie débauchée et scandaleuse. Je continue ce texte épouvantable. De l'ignorance et de la mauvaise vie des prêtres provenait celle des laïcs. Ils ignoraient presque toutes les choses qu'un chrétien est obligé de savoir pour faire son salut. Un prêtre qui écrit ça, hein? Le père Chastenay. Il n'avait jamais entendu parler des vérités de notre foi, de nos mystères. Et il n'avait jamais entendu dire qu'il y eût des commandements de Dieu. Les jours de fête et de dimanche étaient profanés par des foires et des marchés. Les mariages clandestins, les duels, les superstitions étaient communs. Quant aux églises, elles étaient si mal tenues, presque toutes, qu'il n'y paraissait aucune marque de religion. L'hérésie protestante en avait ruiné plusieurs. En d'autres, c'était des lieux d'assemblée, laïques et de promenade. Quelques-unes étaient pleines de coffres de bois et de barriques de vin. Notre évêque, Monseigneur de Solmignac, le bienheureux Alain de Solmignac, venant d'Arles et passant dans son diocèse sans se faire connaître, trouva même un curé qui faisait sa cuisine. On eût pris ces lieux saints plutôt pour des granges que pour des temples du Dieu vivant. Pour ce qui concerne l'évêché, beaucoup de revenus étaient aliénés, des titres égarés, des bâtiments en ruines. Tel était l'état déplorable du diocèse de Cahors lorsque notre bienheureux Alain en prit la conduite. Il faut voir comment il remédia à tous ces désordres. Alors, le nouvel évêque, en arrivant à Cahors, convoque pour le 21 avril 1638 un synode diocésain. Alors, Monseigneur Alain de Solmignac s'y montre résolu et il fait publier aussitôt les statuts qu'il a rédigés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a décidé? C'est une réforme, c'est comme des promesses du nouvel an, hein? « Désormais, les prêtres porteront la soutane, et en voyage, la soutanelle, c'est-à-dire une soutane plus courte. Leur tonsure sera large et apparente. Ils n'auront ni cheveux longs ni moustaches. Leur sont prohibés le port des armes. » C'est une bonne chose. « L'entretien des chiens, les jeux publics, les cartes ou les dés, la fréquentation des foires et des marchés, l'accès des hôtelleries, sauf en voyage. Chez eux, aucune femme dans leur maison sans la permission écrite de l'évêque. Ils instruiront les ignorants et la jeunesse, visiteront les malades et les pauvres. Ils garderont la résidence. Ils feront chaque année 8 à 10 jours de retraite. Ils devront posséder une Bible, les actes et le catéchisme du Concile de Trente, et ils étudieront la théologie. L'évêque leur explique encore la manière de bien célébrer la messe, d'administrer les sacrements, de tenir convenablement les églises et les sacristies. Il annonce également la prochaine création d'un séminaire, mais nomme encore 30 vicaires forains chargés de veiller à l'exécution des statuts synodaux. Faut pas s'imaginer, évidemment, que le clergé a accepté tout ça aussitôt, hein. Monseigneur Alain de Solminiac, à plusieurs reprises, doit renouveler les ordres et les défenses. Il a sorti d'amende et même de suspense et même d'excommunication. Alors, le nouvel évêque de Cahors est patient la première année, mais dans la suite, il frappe. Ainsi, en 1639, 80 prêtres encourent des rappels à l'ordre et des censures. Près de 50 l'année suivante, ça a baissé. Quant à ceux qui ne s'adonnent pas à l'étude et restent ignorants, ils sont privés de leurs bénéfices, puis ils doivent accepter des vicaires qui suppléeront à leurs carences, qui les assisteront, quoi. Et certains curés n'étaient pas nommés directement par l'évêque, mais presque les deux tiers par des abbés de monastères, des chapitres, voire des seigneurs, des laïcs, quoi. Mais si les candidats présentés ne remplissent pas les conditions voulues de connaissances, de sciences et de conduite, Monseigneur de Solminiac refuse d'agréer à leur nomination. Il n'accepte dans les charges de curé que ceux qui en sont dignes. Alors, il demande aussi que les prédicateurs parlent simplement puis de manière à être compris. Écoutez bien ça. Ils prêcheront donc en patois, c'est-à-dire en occitan. Occitan, la langue occitane. Hein? Recommandant les vertus et condamnant les vices, tout en respectant les personnes. De même, dans les prières du prône, seront récités en latin, en français et en langue ordinaire, le credo et les commandements de Dieu, pour que les ignorants soient à même de les connaître. Même aux confesseurs, ils devront s'instruire. Quant aux confesseurs, ils devront s'instruire de la forme de l'absolution qu'ils prononceront distinctement. Alors, Monseigneur de Solminiac, durant son épiscopat, ne tient pas moins de 16 synodes diocésains et en faut de la réforme. Il ne se déroule pas toujours dans la sérénité. Celui de 1651 en particulier est spécialement agité. Mais lui, il n'est pas homme à céder. Il est solide. Hein? Il est rigoureux à l'égard de lui-même. Il continue sa vie de prière et d'austérité. Il veut pour son clergé la culture, la formation et la dignité qui conviennent à des dispensateurs des mystères de Dieu, comme il dit. Une quinzaine de jours après le premier synode de Cahors, le 7 mai 1638, le nouvel évêque entreprend sa première visite pastorale et durant son épiscopat, il en va en faire 9 visites. Il se rend ainsi dans les 700 ou 800 paroisses de son diocèse. Et il ne manque pas de passer dans les monastères et les prieurés établis sur son territoire aussi pour veiller au bon grain. Chaque visite a été préparée. Alors, pour préparer l'avenue de l'évêque, eh bien, il y a des missionnaires qu'il précède afin d'instruire les gens en langue vulgaire, en langue ordinaire, en patois, quoi, en occitan. Et puis, pour les instruire des vérités de la foi. Ces prédications des missionnaires, qu'on appelle des missionnaires, sont d'abord confiées aux chanoines réguliers qui viennent de Chancelade, de son abbaye. Mais il est fait seconder par les lazaristes de Saint-Vincent-de-Paul. Hein? Il y en a un ou deux lazaristes à Montréal. Et les jésuites de Cahors aussi viennent l'aider. Il y a des bons prêtres pour l'aider. Elle dure parfois 6 semaines avec messe, sermon, parfois 3 dans la journée, des catéchismes. On prépare la jeunesse à la première communion, il y a des examens de conscience, des confessions. Le bienheureux Alain de Solminiac a donné à ses missionnaires des consignes précises. Par exemple, je cite, c'est ce qu'il dit lui, « Il faut considérer le lieu où l'on prêche, l'auditoire et la capacité de celui-ci et ses plus grandes nécessités. Il faut prêcher donc une doctrine propre à réformer les mœurs et enflammer à la pratique des vertus. Il faut accommoder le style à la portée des gens. Toujours observer un ordre, divisant la prédication par points et portant toujours le plus de clarté et facilité qu'on pourra pour la rendre plus facile à concevoir et retenir. Puis prêchant des choses de pratique. » Monseigneur de Solminiac continue, il sera aussi fort à propos d'apporter quelques exemples. La prédication ne doit durer que 3 quarts d'heure. Imaginez 3 quarts d'heure aujourd'hui, c'est assez long. Hein? 3 quarts d'heure au plus. Afin de ne pas être ennuyeuse, dit-il. Il sera fort utile que le prédicateur médite sa prédication avant de la prononcer. Que les prédicateurs ne traitent pas de questions difficiles et inutiles, mais qu'ils s'attachent à expliquer clairement et familièrement, tout simplement, l'Évangile. Le symbole des apôtres, le Notre Père, le Je vous salue Marie, les sacrements, les cérémonies de l'Église, puis les vertus, particulièrement celles qu'ils jugeront être les plus nécessaires à leur auditoire. Ils terminent en reprenant les vices que tous connaissent qu'ils font cela non par haine des hommes, mais par haine des péchés. Alors lui, il mène une vie dure, il se lève à 3 heures du matin pour être fidèle à ses longues méditations. Quand il fait mauvais ou le soleil est trop ardent, ça ne l'arrête pas. Sans même prendre le temps de se changer, il lui arrive de rester plus de 30 heures sans boire ni manger, tellement il est empressé. Là où il couche, si le presbytère n'a pas de chambre honnête, comme on dit, pour le recevoir, ben il déclare tout simplement, lui qui est évêque, « Nous trouverons bien de la paille et ça me suffit. » Il s'étend alors tout habillé par terre. Le succès de ses missions et visites pastorales ne le grise pas du tout. Il songe qu'après son départ, évidemment, les fidèles peuvent revenir à leur négligence antérieure. Alors, il insiste pour que les prêtres simulent le zèle du peuple chrétien, en particulier par une instruction appropriée. Alors, lui-même a composé pour son diocèse un catéchisme rimé, oui, comment, des vers, hein, et est capable d'être chanté pour être mieux retenu. Il réglemente aussi les heures des messes. Il interdit l'ouverture des cabarets au moment des offices, de même que les foires et marchés les jours de fête, parce qu'il rappelle les attitudes de respect qui conviennent aux églises. Alors il dit, pas de femme dans le cœur, tête découverte pour les hommes, voile sur la tête pour les femmes. Il ajoute, c'est un peu surprenant, poitrine couverte lorsqu'elle se confesse, etc. Bon. Il menace même d'excommunication les pères de famille qui font travailler le dimanche leurs enfants ou leurs serviteurs, car il les empêche d'assister à la messe. Mais surtout, il veut pourvoir son diocèse de bons prêtres. Alors il commence par en réunir quelques-uns dans la maison du grand chantre, où on peut s'instruire un peu. Alors là, la pénurie de candidats, ça mène à un quasi-échec, hein? Et ses efforts sont semblent inutiles. Aussi, en 1643, il passe avec Saint-Vincent de Paul, son ami, un contrat qui confie les séminaristes aux lazaristes. C'est les lazaristes qui vont les former, ces séminaristes. Et lui-même s'enquiert des dispositions des aspirants sacerdotes. Alors là, il trie les candidats, il veut les connaître. Et peu à peu, devant la réforme, les jeunes affluent. Les jeunes veulent devenir des bons prêtres. Soumis avant tout à une discipline par des exercices spirituels, c'est ça qu'ils veulent. Le temps de séminaire ne dure qu'une année, par exemple. On y enseigne surtout la morale, l'administration des sacrements, le chant grégorien, la liturgie. Malheureusement, le dogme est peu étudié, puis en somme, les candidats à la prêtrise acquièrent finalement un esprit ecclésiastique puis une pédagogie pour enseigner les fidèles. Chaque jour, ben, ils font une demi-heure de raison quand même. Et l'évêque, Monseigneur de Solminiac, en demande ensuite une heure. Puis la veille de leur ordination, les futurs prêtres signent l'engagement de continuer quotidiennement à pratiquer l'oraison. Alors, comme on peut voir, la foi de Monseigneur de Solminiac est intransigeante. Le courage lui manque pas. En devenant évêque, bien Alain de Solminiac sait qu'il n'échappera pas aux persécutions. En fait, il n'a jamais la chance de se reposer. Il s'attaque, par exemple, aux grands, les dignitaires laïcs, là, qui, pour des menus points d'honneur, n'hésitent pas à se battre en duel. Il fait en sorte qu'ils risquent d'être excommuniés, et les duels disparaissent. Et beaucoup de ces gentilshommes entrent, d'ailleurs, finalement, en se convertissant dans la confrérie de la Passion, fondée par M. Jean-Jacques Ollier, ou dans celle du Saint-Sacrement, où les nobles et les bourgeois constituent finalement une élite catholique agissante et aident l'évêque dans sa tâche. Alors la réforme est vraiment entreprise, et en 1652, il a près de 60 ans, il fonde pour les pauvres malades un hôtel Dieu, un hôpital qu'il dote, parce qu'il a de l'argent, il vient d'une grande famille, et en juillet 1654, 2 ans plus tard, il établit une maison de la Providence pour les orphelines, qu'il confie aux filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Puis en 1658, il crée de même une maison pour les orphelins. Puis en même temps, il secourt de nombreux pauvres dans son château de Mercues. Et pour toutes ses fondations puis ses charités, il s'est si endetté de tous ses biens, y compris les objets de sa chapelle, qu'il est devenu archipauvre, puis il déclare, « Bah, les revenus de mon évêché sont quoi? C'est le patrimoine sacré des pauvres. » Alors, nous revenons dans le Quercy, c'est comme ça que ça s'appelle, cette région, le Quercy, Q-E-R-C-Y, qui a été ravagée par les armées protestantes, et c'est pas, heureusement en général, passé à ce qu'on appelle l'hérésie protestante à l'époque. Aujourd'hui, on parle plus d'hérésie, on est plus délicat à l'égard de nos frères protestants, et on comprend leur réforme jusqu'à un certain point. Dans certains lieux, comme Saint-Céré, Carjac, Caussade, etc., les réformés, les protestants sont groupés, puis ils possèdent des temples, et le bienheureux Alain s'emploie donc, autant que possible, à faire reculer le protestantisme. En 1657, Monseigneur de Solminiac apprend qu'un synode réformé protestant se tiendra à Caussade, alors il décide. C'est comme ça qu'on procédait dans le temps. C'est amusant de penser que ça a bien changé. Il décide que les exercices du jubilé auront lieu au même moment. Et ainsi, le grande foule des fidèles catholiques éclipsera le rassemblement des protestants. De plus, des missionnaires qui, le matin, ont assisté aux prêches des Huguenots, les protestants, réfutent ceux-ci publiquement l'après-midi, sur une place de la ville, en présence de l'évêque. Et cette méthode de controverse entraîne des conversions, c'est assez surprenant, hein? Les plus éclatantes sont évidemment celles de pasteurs et de notables, telles que celles de Jacques de Gontaut-Biron et de Monsieur de la Tende. Alors, les deux pires épreuves que doit cependant subir notre bienheureux Alain Solminiac, lui viennent d'un autre schisme, le schisme d'une partie de ses chanoines réguliers et de la révolte ouverte d'une portion de son clergé diocésain. On peut s'y attendre, il y a telle réforme. Le premier synode de Cahors, puis les statuts imposés par l'évêque, avait contrarié une partie de son clergé, habitué à chercher ses aises et ses intérêts. Il se forme donc contre lui un noyau d'opposants, qui est mené par le curé Jean Lacombe, qui est curé de Caussade, qui a été cependant choisi comme vicaire forain. C'était quand même un homme compétent. C'est pas un homme sans culture ni mérite. Hein. Le cardinal Richelieu l'avait utilisé d'ailleurs pour extirper, comme on dit, l'hérésie protestante. Et il avait joué un rôle de pacificateur lors de la révolte des croquants, comme on dit. Fort de la protection de personnages importants, là, il a de se faire regrouper facilement autour de lui des adversaires du nouvel évêque Alain de Solminiac. Il a avec lui 8 docteurs en théologie, 7 bacheliers en théologie. À cause de son esprit d'indépendance, Monseigneur de Solminiac le destitue de sa charge de vicaire forain, ce qui provoque la révolte ouverte. Alors elle se manifeste par des pamphlets. On calomnie le bienheureux Alain de Solminiac. Il risque tout. Plus tard, lors d'un autre synode, les révoltés s'en prennent à l'évêque, qui relève de maladie. Alors il leur demande, vu son état, de formuler par écrit leur remontrance. Et il va les examiner. Mais le lendemain, les opposants, accompagnés de laïcs armés, entrent dans le palais épiscopal et pénètrent dans le lieu de réunion du clergé au cri de « tyrannie, oppression ». Ils vont pas de main morte, hein? Je sais pas si on a eu des cris comme ça lors du synode à Montréal, je pense pas, hein? Non seulement on échange des injures, mais des coups. Alors, Saint-Vincent de Paul et un conseiller du roi sont désignés comme médiateurs. Et puis, ils essaient d'arranger les choses. Alors, il y aurait 28 revendications sur les 43 qui ont été formulées à Alain de Solminiac. Ils n'en retiennent que 15. Et puis, l'affaire est portée devant le Parlement de Toulouse, dans le sud de la France, qui donne raison aux contradicteurs, mais l'évêque, lui, juge que seul le pape peut régler le problème. Finalement, les révoltés sont contraints de présenter à l'évêque leurs excuses, et le clergé se plie donc à cette réforme dont il ne veut pas tellement. De moins en moins, l'évêque de Cahors va adresser des remontrances aux prêtres insoumis. Depuis que le bienheureux Alain Solminiac a pris en charge le chancelat et sa réforme, puis le diocèse de Cahors, il n'a fait que lutter. Il s'est échauffé pour la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est à ses yeux bafouée. C'est un homme énergique et austère. Il admet mal le relâchement puis l'ignorance chez les religieux puis chez les prêtres. C'est pour ça. Il dit d'ailleurs, un évêque se doit faire aimer de tous et prendre conseil un peu. Un conseil de peu. Et se laisser conduire vraiment par Dieu seul. Il dit, mon inclination est de conduire par amour, mais pourtant avec fermeté contre les esprits rebelles. Dieu m'a donné l'esprit de force. Bon, je n'appréhende pas plus les plus hautes puissances que des fourmis quand il s'agit de la gloire de Dieu. Ma devise, c'est la pureté et la fidélité. Il déclare aussi, il ne faut pas s'étonner si les évêques ont des contradictions, puisqu'ils sont établis pour détruire le vieil homme. Les croix nous purifient et nous rend semblables à notre Seigneur. Il puise sa force dans l'oraison et dit la vie d'un évêque doit être une oraison continuelle. C'est un méditant et il passe beaucoup de temps devant Saint-Sacrement, qui est pour lui un sacrement embrasant. Ça allume son cœur. Il célèbre pour la dernière fois une messe le 8 décembre 1659 à 66 ans. Le 26 décembre, le lendemain de Noël, il jette au feu ses instruments de pénitence. Il veut en faire autant avec ses écrits qui sont sauvés de justesse par le père Châtenay, dont je vous ai lu un texte où il décrit l'état de son diocèse tout à l'heure. Le 28 décembre, il a la joie de voir son pire opposant Jean Lacombe lui apporter sa soumission. Le 30 décembre, il ne peut achever son bréviaire. Il demande à ce qu'on le confesse le lendemain. Le 31, après quoi il reçoit la communion, puis l'extrême onction. Dans la matinée, il récite le credo, les actes de foi, d'espérance et de charité, de contrition. Il se fait mettre un crucifix sur la poitrine, puis il le serre dans ses mains, perdu en Dieu. Vers 10 heures, ce 31 décembre, il murmure « J'achève mon sacrifice. C'est Dieu qui le consomme. Il faut le laisser achever. » Puis il soupire « Hélas, quand serai-je dépouillé de ce corps et que je serai avec le Christ ?» Ce sont ses dernières paroles. On lui lit la passion selon saint Jean, puis juste au moment où il est dit « et inclinat au capite », il incline la tête et il émet son esprit, « emisit spiritum », il penche lui-même la tête, puis il rend son dernier souffle. Il est midi, le 31 décembre 1659. Oh, c'est vraiment un personnage extraordinaire, et quand il est béatifié par le pape Jean-Paul II, le pape dit « Son expérience rappelle à tous les religieux la valeur et la fécondité de leur oblation radicale, soutenue par l'observance de la règle, la mortification, la vie en communauté. » Le pape ajoute « Un mot tiré du psaume 69 résumerait parfaitement la vie pastorale de cet évêque du XVIIe siècle. Le zèle de ta maison me dévore. » La remarquable figure d'Alain Solminiac mérite bien d'être mise en lumière par l'Église. Car il a servi l'Église dans une époque très difficile. On pourrait souhaiter que les évêques du Québec et de tous les pays trouvent dans la vie du bienheureux Alain de Solminiac le courage d'évangéliser sans peur le monde contemporain, ce qui n'est pas facile. Pas facile.